Je vais proposer donc aux trois invités de réagir à ce qu'ils ont entendu tout très librement et sans ordre particulier. Donc, je ne sais pas, le docteur Drevon, par exemple.
Commencez, ça marche. Bien, c'est très complexe. Je voudrais... notre secteur en tarification, il est très simple. C'est vraiment très simple. C'est un prix de journée. Voilà, qui est bas, en moyenne 120 euros, auquel on rajoute à peu près 27-28 euros d'honoraires médicaux. Donc avec ça, on est en déficit, c'est évident. Donc après, on a trouvé des ressources. La ressource, c'est quoi? C'est la chambre particulière, donc c'est les mutuelles. Ce qui fait que, je vous dis tout de suite, dans un établissement qui a 80% de chambres particulières et 20% de chambres à deux lits, la mutualisation se fait en interne pour les patients. C'est-à-dire que celui qui est en chambre particulière, il paye le soin de celui qui est en chambre de lit. C'est une donnée. En même temps, qu'est-ce qui s'est développé depuis 3-4 ans dans notre secteur? Il s'est développé des tarifs particuliers. Des tarifs particuliers sur la gérontopsie, sur la post-urgence, où on travaille en collaboration avec les services d'urgence psychiatriques, sur les 16-25 ans, gérontopsie, 16-25, post-urgence, je crois que c'est tout. On essaye de faire passer un truc sur l'anorexie mentale, parce qu'on a des établissements qui sont assez spécialisés là-dedans. Ça peut se faire, ça se fait par ARS dépendant. Ça remonte un peu à la DGOS, mais c'est les ARS qui prennent quoi? Un cahier des charges médicales, un projet médical, et qui nous financent un business plan. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent qu'on nous donne en plus? Qu'est-ce qu'on met derrière? Est-ce qu'on met plus de médecins, plus de médical? Est-ce qu'on met plus de psycho? Est-ce qu'on met plus d'ateliers thérapeutiques? Qu'est-ce qu'on va faire dans une journée d'hospitalisation pour tel ou tel patient? Il y a un petit tarif aussi, un tarif en trouble bipolaire. Quelqu'un qui a eu comme ça un tarif en trouble bipolaire avec une part de recherche en liaison avec un CHU. Donc, il y a une petite part pour financer. Je vous donne un peu les choses qui se passent un peu dans notre secteur. Voilà. Alors, sur cette VAP, donc c'est vrai qu'il y a 2008, ça s'est arrêté. Je comprends toutes votre expérimentation. Je me dis que les ARS, elles dépensent beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Comme ça, quand on me présente des études comme ça, je me dis, elles ont des collèges d'ARS, il y a des référents ARS psychiatrie, il y a des référents finances. Je me dis quand même, au lieu de faire chacun leur petit bidule, là, parce que ça fait petit bidule, moi, comme ça, d'extérieur, dans une gestion d'un établissement privé, moi, je trouve que ça fait petit bidule, c'est pas comme ça que je fais, qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On va présenter un projet, il y a encore des autorisations qui ouvrent, il y a encore des services qu'on demande. Si on demande une anticipation à temps partiel, c'est qu'il y a un besoin, il y a une évaluation, il y a un besoin dans le territoire, il y a un emplacement. Qu'est-ce qu'on fait? On demande pas ça, on demande ce qu'ils nous demandent beaucoup, c'est un projet médical, des évaluations et des indicateurs. Et après, on revient nous voir au bout de 2-3 ans. Je trouve qu'on n'en tire pas assez. C'est-à-dire que si je prends l'utilisation temps partiel en psychiatrie, qui a 6-7 ans, ça fait 3-4 ans qu'on demande une évaluation, qu'on demande de travailler sur des tarifs qu'on a fait, comme on a pu, on les a refusés un an, puis après on les a acceptés parce qu'on voulait rentrer dans cette évolution, mais on n'a jamais pu avoir d'évaluation. C'est pas très compliqué, moi je leur dis, il y a 40 établissements avec une tarification qui s'est faite. On pourrait regarder, voir ce qu'on fait, voir un peu les cahiers des charges de chacun qui sont différents, mais il y a du boulot qui se fait, les files actives, la durée des prises en charge, est-ce qu'il y a 10 séances, est-ce qu'il y a 20 séances, voilà. C'est pas très compliqué. Même ça, on n'arrive pas à le faire quand on le demande. Pourquoi? Je sais pas. C'est-à-dire que ma réflexion, c'est on connaît pas tant que ça ce qu'on fait. Tant qu'on connaît, on connaît mieux. Le RIMP nous a permis de connaître mieux. Et je dis, tant qu'on connaît pas ce qu'on fait, on peut toujours supposer qu'on fait les choses, mais qui ne sont pas financées. C'est ce que vous disiez. En CMP, j'arrive à un coup, moi, ça m'a toujours étonné, je dis, je prends, moi. Il n'y a pas de problème, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour dire c'est plus ou c'est moins chez vous, ou c'est moins chez nous. Je veux dire que c'est pas le boulot d'une réflexion sur un financement à l'activité. Mais je dis, peut-être, qu'il y a des choses qui ne sont pas financées, ou peut-être qu'il y a des choses qui sont trop bien financées, pour un service rendu, un service médical rendu aux patients. Comme le médicament, il a un service médical rendu. Et s'il y a des molécules très onéreuses, c'est actuellement, c'est qu'il y a un service médical rendu très particulier, avec de la recherche derrière, une évaluation, etc. Et moi, ce que je regrette dans l'approche, c'est on part de l'historique, et ce que j'aime bien dans la loi, c'est certainement le seul truc que j'aime bien, parce que le service de territorial au public, ça nous gratte un peu avec les mentions de service public, enfin, le privé un petit peu en dehors, ça nous irrite un peu. Mais ce qui m'intéresse quand même, c'est quel besoin on a dans une population de territoire. Parce que je pense que c'est pas vraiment, il y a des différences énormes. Et si on ne sort pas de l'historique, on va maintenir des différences artificielles. La France a changé en 20 ans, en 30 ans. Oui, vous avez des établissements qui sont très anciens. Comme nous, on a des cliniques très anciennes. Et puis, il y a eu des créations qui sont récentes. Si je prends le Nord-Pas-de-Calais, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a eu des créations. Pas mal, en privé. Parce qu'il y avait des besoins. Et pourtant, il dit pourquoi il y a des besoins et on a ouvert les choses différemment de ce qu'on a ouvert il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas pareil. On ne rend pas le même service à la population. C'est quand même, ça part de là. Ça part pas de ce qu'on a. Une entreprise. Qui n'a pas réfléchi à ça, qu'est-ce que j'offre ? Elle meurt. Oui, elle meurt. On ne peut pas la maintenir artificiellement. Même si c'est l'État, même si on a des besoins à couvrir, bien sûr, au niveau de la population, il y a des précaires, bien sûr, mais on les identifie, les précaires. Il ne faut pas rêver. On le sait. C'est pas comme ça, ils ne vont pas sortir du chapeau. Ils évoluent, bien entendu, ils évoluent. Le chômage évolue, donc les précaires évoluent. Et les précaires, la pathologie les fabrique. Donc, là-dessus, moi, je pense que si on partait plus d'un territoire, de ce qui se fait, et après, de supprimer un peu l'historique, le géopopulationnel, il ne doit pas avoir... à ce moment-là, il est pour tout le monde. Moi, mon activité dans le territoire, elle est à 90% dans le territoire. Donc, je couvre aussi mon géopopulationnel. Donc, il faut réfléchir à ça, de partager un peu les critères. La file active est importante, mais la file active, elle se fait comment aussi ? Si vous regardez un peu dans les CMP, moi j'ai des copotes dans les CMP, j'ai les CMP qui tournent du tonnerre de Dieu. Mais du tonnerre de Dieu, quoi. Puis il y en a d'autres, c'est plus difficile. Comme il y a des cliniques en ambulatoire, les services ambulatoires qui tournent très bien, puis d'autres, ils rament, hein, parce qu'il n'y a pas l'énergie, quoi. Hein. Voilà. Alors est-ce qu'on finance a priori, ou est-ce qu'on finance quand même ce qui rend service à la population ? Parce que sinon, on a l'exemple d'hier de ce jeune Italien, là, de notre confrère italien, qui dit, ça m'a marqué, j'ai fait une équipe mobile parce qu'il y avait un peu de crédit là-dessus. Il l'a dit comme ça, simplement. Hein, je veux dire, moi, je n'ai pas inventé. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi, si on en est là, dans le financement. Il n'avait pas besoin de ça, il avait besoin d'autre chose, d'après ce que j'ai compris ça, moi. Hein. J'ai compris qu'il avait besoin d'autre chose, mais il a pris ça parce qu'on lui a donné ça, quoi. Et qu'il y avait un critère. C'est comme ça que nous traitons les tutelles. Hein, vous avez un peu des ouvertures, etc. Donc voilà, ce partage, en grosso modo, on peut être d'accord, dans le pourcentage, il faut faire attention. Il ne faut pas se référer à l'historique, sinon, quand la T2A est arrivée en MCO, il y a eu des grandes ruptures. Nous, on a fait, sur les tarifs, on a fait un essai d'uniformité au niveau régional, c'est à peu près fait. Au niveau national, on a des différences de 30% quand même, hein, sur le tarif de base. Hein, c'est de 120 ou 145. Je ne parle pas de l'outre-mer. Hein. C'est un monde à part. On a essayé d'harmoniser. Difficile, il y en a qui n'ont pas bougé, quoi. Maintenant, comme il y a plus, on baisse les tarifs, ben, on ne peut plus harmoniser, quoi. On ne va pas baisser un peu plus les tarifs, on est raisonnable. Donc, il y a une complexité, là. Et je crois que j'ai bien aimé un peu vos chiffres, hein, qui sont bruts, qui font réfléchir. Mais pour moi, c'est de la vraie réflexion. Je me dis, tiens, CMP, si je finance comme là, ça fait 1,2 million d'écart. Oui, 1,2 million, ou je ne sais pas combien.
1,2 million.
1,2 million. Là, ça me fait réfléchir. Je dis, il ne s'agit pas de dire conclure tout de suite, boum, on baisse. Ça, si vous le montrez à la tutelle, aux finances, et ils vont vous dire, bon, c'est bon, quoi. Hein, C'est ça, hein, il y a Bercy quand même dans notre financement. Hein, il y a la santé, puis il y a Bercy. Hein, nous, on sait bien les influences des deux. Hein, c'est pas que la santé, c'est aussi Bercy. Et actuellement, c'est vrai qu'il faut faire avec. Et quand on voit les chiffres d'hier aussi sur la masse qu'on a en santé mentale, au sens large, on doit quand même réfléchir à ce qu'on fait de notre argent. 70% de l'argent va en hospitalisation complète. Si on va arriver à 60% d'ambulatoire, on est loin. Hein, 50, qui voudrait arriver comme le MCO. On a toujours cet exemple-là qui passe avant. On n'est pas les mêmes, hein, je suis bien d'accord. Hein, on n'a pas la même spécialité. Donc on doit, mais quand même, on doit s'en inspirer. Quand on voit ces grosses masses-là, on ne peut pas dire ben, l'ambulatoire, c'est merveilleux. Ouais, c'est merveilleux, mais on n'en fait pas tant que ça. Enfin, ça n'a pas un coût. Une masse financière, ce n'est pas si important que ça. Donc, en prenant ça, voilà, c'est vrai qu'il est temps de réfléchir un peu au niveau national. Maintenant qu'on commence à avoir quand même des recueils, l'IRIMPE, ça commence à être quand même pas mal, quoi. Je veux dire que ça fait 4-5 ans, ça s'affine, petit à petit, ça s'affine. Donc, le recueil des données, il est quand même plus satisfaisant. Qu'il y ait des choses qui ne soient pas prises en compte, mais ça, c'est bien parce qu'on prend en compte des choses qu'on se rend compte qu'on n'en prend pas en compte. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Et on les identifie de plus en plus. Et ça, c'est intéressant d'identifier parce que, voilà, on va commencer à voir que le 10 plus le 20 plus le 30, ils vont être plus sérieux, quoi. Hein? Voilà, c'est un peu ce que je veux dire.
Pour vous faites la saison parfaitement avec la prise de parole de M. Serre pour la TIH. Que fait le niveau national?
Que fait le niveau national? Alors, effectivement, moi, je rebondirai, au-delà des brillantes interventions qui ont été présentées, sur le fait que tous ces modèles qui ont été présentés, dédiés toutes les ARS, eh ben, reposent tous, sur un seul outil, qui est l'outil retraitement comptable, l'outil RTC, pour les établissements DAF. Pour les établissements DAF. Par ailleurs, donc, la TIH, qui effectivement travaille, on l'a vu depuis quelques années maintenant, avec les fédérations, représentants des fédérations, sur différentes thématiques de la psychiatrie, dont l'évolution, l'amélioration du RIMPE, que vous avez cité effectivement, et c'est vrai qu'on affine les choses, on découvre les choses, et effectivement, on connaît mieux l'activité, mais pour autant, je mets un bémol sur connaît-on bien les coûts sous ma casquette de contrôleur de gestion. Parce qu'effectivement, tous ces travaux reposent sur le retraitement comptable. C'est le seul outil que l'on ait. Donc c'est clair, il n'y a pas de. Je ne dis pas que les. Ça doit être bien clair, je ne dis pas que les coûts issus du retraitement comptable ne sont pas exploitables. Ce n'est absolument pas ça mon discours. Je dis simplement que nous avons travaillé au sein de la TIH, Gaël pourra en témoigner par ailleurs, l'analyse macroéconomique nationale des données issues des RTC font apparaître des distorsions énormes de coûts. On parlait du coût de la journée à 327 euros, je ne sais plus combien, ne serait-ce que pour l'hospitalisation complète, temps plein, dont on pourrait supposer que c'est quelque chose de relativement, puisque à chaque fois c'est la variable 1 ou 100, c'est l'étalon, hein, à chaque fois c'est l'étalon. Pour autant, on a des variables, des écarts de coûts qui sont de 1 à n. Donc là où je veux attirer l'attention, c'est que avant de se dire qu'est-ce que l'on va financer, comment on va le financer, comment on va prendre les différentes variables de ce financement, ma préoccupation et celle de sur ce thème-là en tout cas de la TIH, c'est de dire travaillons d'abord sur la mesure des coûts et assurons-nous que nos coûts ont deux items que l'on va défendre, la robustesse et la qualité. Parce que, effectivement, l'analyse des retraitements comptables, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais au-delà de là, on se rend compte que si on fait des analyses simplement, même, j'allais dire, des divisions simples sur, je sais pas, le coût moyen des effectifs, sur la comparaison entre le nombre de TP qui sont déclarés d'un côté et ceux qui sont déclarés de l'autre dans le bilan social, dans le PRD, tout ça. Et alors, pire sur l'ambulatoire, où alors là, les coûts sont ça va dans tous les sens. Je mets simplement un bémol à l'utilisation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, parce qu'effectivement, c'est le seul outil que l'on ait, et qu'effectivement, au fil des années, par ailleurs, la robustesse du RTC s'améliore. Hein, tous les collègues ont travaillé. Voilà, effectivement. Mais voilà, donc les collègues travaillent pour que ça s'améliore. Donc voilà. Et ce que je voulais donc dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, si moi mon discours n'est pas sur le déploiement de ces méthodes qui sont très nobles et que, au contraire, il faut continuer à travailler là-dessus, l'œil du contrôleur de gestion au sein de la TIH, c'est de dire de travailler sur la mesure des coûts. Et à ce titre-là, donc. Je rappellerai à l'assistance ou à l'Assemblée que effectivement nous sommes en plein lancement d'une enquête nationale de coûts. Hein, donc ce n'est pas une étude nationale de coûts. L'étude nationale de coûts irait jusqu'au coût par patient. Une enquête nationale de coûts donc est un niveau plus léger entre guillemets de méthodologie. Et donc j'en profite effectivement pour rappeler que nous sommes en plein dans cette étape de constitution des établissements qui pourraient participer à cette enquête nationale de coûts, et que cette enquête s'adresse bien évidemment aux deux secteurs, hein, et c'est très fort comme message, deux secteurs au sens DAF et OQN, hein, après avec toutes les composantes des sous des sous-branches, c'est quoi ça. Ouais. Ouais, tu passes derrière moi. Donc... non, voilà. Donc, c'est sérieusement et pour conclure, je ne pense pas trahir la pensée institutionnelle en disant que nos leitmotifs sur ce thème-là sont la recherche de la robustesse et de la qualité des coûts. Hein, c'est vraiment deux maîtres mots, et que ça passe d'une part par une plus grande participation, la plus grande participation possible des établissements, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, pour que l'on puisse avoir des éléments un peu plus tangibles. Cette enquête de coûts. C'est pas simplement dire vous faites le RTC et on prend vos données, c'est de dire vous allez remplir le RTC, mais on va vous adjoindre des coachs, des superviseurs pour vous aider, pour affiner, pour creuser ce que les ARS n'ont peut-être pas toujours le temps de faire, sans porter préjudice ni atteinte à qui que ce soit dans cette affaire. On veut aller justement au plus fin. Et ce que vous disiez par rapport, M. Drevon, par rapport à fait qu'on va avoir de l'activité, c'est vrai, on a le RIMPE qui s'affine. On voudrait que les coûts suivent cette même logique pour matcher l'ensemble et effectivement faire émerger alors des coûts, des activités, je ne sais rien, des choses, mais qui vont nous permettre d'améliorer dans la connaissance du processus de formation des coûts. Mon discours vient vraiment en amont de l'ensemble. J'ai l'impression d'être un peu à contre-courant, puisque d'un côté il y a des choses très, très tournées vers le futur qui sont présentées, qui sont très ambitieuses et très intéressantes. Je dis simplement qu'il y a ce socle, voilà, cette brique, comme j'aime à l'appeler, qui va être la fondation de l'ensemble de tous les travaux que nous poursuivrons à la TIH, et que donc il faut être vigilant sur cette brique-là.
Merci beaucoup. David Kos.
Ah, pardon.
Merci Vincent et bonjour à tous les collègues. Merci d'avoir invité la FEAP. Avant que de revenir directement sur le sujet, je voulais juste faire un petit retour rapide sur c'est quoi la FEAP sur les questions de psychiatrie, parce que ça va éclairer aussi la question des familles ex-DG ou DAF ou EQN. En fait, il y a trois composantes présentes sur les activités de soins en psychiatrie à la FEAP. Il y a, je dirais, les PSPH 150 ans avant la loi de 70, c'est-à-dire ceux qui étaient avant la loi de 1838, des congrégations mettent en place des établissements de soins à l'époque, asile d'aliénés et asile est un mot positif, au sens de l'asile politique, par rapport au contexte de soins de l'époque. Et lorsque la loi de 38 arrive avec l'obligation d'avoir un établissement de soins par département, eh bien, Saint-Jean-de-Dieu, le Bon Sauveur, Sainte-Marie mettent à disposition disposition, ces équipements à la disposition des pouvoirs publics. Voilà. Donc il y a cette première famille et qui est très largement présente et active au sein de l'ADESM. Il y a après les chevaux légers du militantisme professionnel des années 60, 50 et 60. C'est-à-dire l'extra-hospitalier, l'élan retrouvé dont j'étais le DG pendant une dizaine d'années, l'invention des hôpitaux de jour, des foyers de post-cure, voilà, à l'époque héroïque, maintenant des équipements qui sont dans la banalité, ou la question de l'insertion professionnelle avec la présence d'associations comme Spasme, comme Vivre, ou les pointes associatives sur la question de la précarité avec Santé mentale et communauté, avec d'autres associations de cette nature. Et puis enfin, je dirais des offres extrêmement ciblées, troisième famille, qui fonctionne d'ailleurs tout autant en tarification sous EQN que sous DAF, notamment en matière de réhabilitation psychosociale dans plusieurs régions, donc dans des structures qui sont dans le même régime juridique et financier que les structures que représente le docteur Olivier Drevon. Voilà, juste cet élément-là, ce qui veut dire que dans le débat national ou dans les débats techniques, on pourrait dire avec un peu d'humour, vous me connaissez, que la FEAP joue un double rôle, un rôle de rotule, de point de passerelle ou de passage entre les deux secteurs, parce qu'on est naturellement biculturel. On va dire qu'à la FEAP, il faut que les ex-DG et les OQED ne se tapent pas trop dessus à l'intérieur, puisqu'à l'extérieur, ça ne manque pas. Et puis, le deuxième aspect, c'est une sorte de pondération de certains réflexes. Parfois, on a des collègues publics, je ne parle pas de la psychiatrie et de l'ADES, bien sûr, qui ne pensent que la présence du secteur public, et nous sommes là pour rappeler qu'il y a des cousins de droit privé, non lucratif, mais de droit privé. Et puis, de temps en temps, dans certains métiers, le privé commercial prétend à le même type de service rendu, le même type de contraintes que les collègues en charge du service public, et on est là aussi pour dire, attendez, quand même, il faut sérier les sujets. Voilà, pour faire une petite note d'humour, à la fois sur la substance de la FEAP sur ses activités et sur le style de positionnement que cela induit. Alors, pour revenir très vite sur la question, les présentations qui ont été faites ce matin, mais qui sont la suite de travaux que Vincent a resitués, de contributions des collègues, et notamment des contrôleurs de gestion de l'ADES. D'abord, je voudrais les saluer, parce qu'ils s'inscrivent dans une sorte de vacances techniques et idéologiques donc ça fait plaisir de voir cet investissement-là, même si naturellement cet investissement s'inscrit dans un certain nombre de difficultés sur lesquelles ça vaut le coup de partager quelques idées. Je dirais la première, j'ai trois idées à vous livrer. D'abord, celle de la fausse simplicité. La deuxième idée, c'est la question de la mécanicité des raisonnements sur les chiffres, qui, moi, m'interroge beaucoup, je vais y revenir. Et troisième élément, c'est la question de la collégialité. Pourquoi, ta question tout à l'heure, Vincent, pourquoi le niveau national a tellement de mal à dire ce que vient de rappeler Olivier Drevon? Toutes les ARS prennent le stylo. Finalement, si toutes les ARS se mettent ensemble, ça devient le ministère. Et pourquoi le ministère ne prend pas le stylo? Alors, sur la fausse simplicité, moi, je voudrais juste dire qu'en matière de DAF, on a un petit piège, c'est qu'en fait, on a un numérateur. On a un numérateur facile, il y a l'ODAM, il y a les DAF régionales, et donc on se dit, bah, finalement, notre seule problématique, c'est la créativité sur le dénominateur. Moi, ce que je voudrais dire, en appui de ce que vient de dire M. Serre de la TIH, c'est que pour la FEAP, ça fait 3 ans que notre commission psychiatrie et santé mentale a décidé d'arrêter de conjecturer sur les recettes, sur la modélisation des recettes, en disant notre vrai sujet sur lequel on peut travailler utilement et certainement tout de suite, c'est le benchmark sur la connaissance de nos coûts. En disant, bah voilà, on a des RTC, on se met tous d'accord sur l'option la plus détaillée, condition qui mérite d'être énoncée. Et puis, secondo, comme ça vient très bien d'être dit par le docteur Drevon et par M. Serre, mais c'était en filigrane des interventions de Gaël Leloup, d'ailleurs, par le côtoiement des chiffres, on va se rendre compte qu'on a des statistiques d'activité ou des indications dans nos dénominateurs qui sont un peu atypiques, qui sont un peu bizarres. Donc, on va aller faire fouiller là-dedans pour vérifier qu'on n'est pas en train de raconter des bêtises, à notre corps défendant sur nos services rendus. Voilà, parce qu'il y a des... notamment sur l'infanto-juvénile, on a des pics, on a des courbes de température, d'activité qui donnent envie d'aller regarder un peu de plus près comment on décrit les patientèles et les services rendus. Je vois Gaël hocher de la tête. Bon, voilà, ça n'a rien d'insultant ou de désobligeant pour ceux qui exercent ces métiers. C'est simplement, ça veut dire quoi, ces pics de température dans les indicateurs? Même chose sur le retraitement comptable, quand on voit arriver certaines structures dédiées avec des coûts à la journée ou à la séance faramineux, eh ben, c'est peut-être aussi, il ne faut pas prendre le chiffre au pied de la lettre, il faut le mettre en réflexion, et c'est peut-être tout simplement qu'on s'est trompé de dénominateur. Voilà, donc je pense que ce qui vient d'être dit, il faut faire de la musculation, voilà, dans la confrontation avec les chiffres, et il faut mettre le pied puis le genou dans cette flaque-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce point. Mais alors, le truc très important, c'est qu'il ne faut pas oublier, de mon point de vue, qu'on manie des conventions intellectuelles. C'est parfaitement naturel. Il faudrait n'avoir jamais fait de comptabilité analytique pour s'étonner qu'on mette en place des conventions intellectuelles pour travailler. Le vrai problème, c'est qu'il faut, à un moment donné, se mettre tous d'accord, comme les tableaux ont été présentés, sur les mérites et les limites des conventions intellectuelles que l'on établit. Et la convention, elle a tous les mérites nécessaires pour travailler. Le vrai sujet, c'est de s'accorder sur ces points limites. Parce que dans tous les raisonnements, il y a un point limite. Et donc, c'est là où nous manque, j'y reviendrai, la question de la collégialité et du travail au niveau national, qui permettrait, avec les communautés soignantes, d'éviter d'être dans la brusquerie du 0,1 de CMP, qui est un dixième d'une activité d'hospitalisation à temps plein. Parce qu'il y a ce côté techno que nous partageons de manière décontractée, personne ne va interpeller les orateurs pour dire pourquoi 0,1, pourquoi 0,2, mais il faut bien voir après que dans le travail des collègues, avec les communautés soignantes, avec les organisations syndicales, à quel point cette affaire peut paraître brutale. À quel point cette convention intellectuelle peut même se retourner contre l'intention bienveillante de ses auteurs. Parce que, comment dire, si à un moment donné on en vient à des modèles mécanistes, bon, d'accord, c'est ce que j'évoquais avec Jacques Marescot en préparant avec lui son intervention avec vous hier matin. Lui me disait que, comme vous avez ça partout, on a parfois des équipes un peu défensives qui sont dans le repli vers l'hospitalisation à plein temps. Si ça paye de faire l'hospitalisation à plein temps, parce que c'est du 1, et au passage, je vous rappelle que ces ratios-là, sont délicieusement hospitalo-centrés. C'est l'hospitalisation à plein temps qui fait le 1. Juste, voilà, un petit clin d'œil entre nous. Mais peu importe, il faut toujours un point fixe, il faut un point d'appui, hein, comme l'accouchement à voix basse et le point d'appui de toute la hiérarchie, hein, sous votre contrôle. Ce qui est d'ailleurs, en soi, sur l'accouchement de la T2A, une métaphore assez étonnante. Voilà, mais on est donc clairement... Sur des conventions intellectuelles, et alors les conventions intellectuelles vont même jusqu'au soubassement. Vincent, j'ai un désaccord, mais un désaccord constructif avec le tableau des variations régionales qui a été présenté tout à l'heure. Pourquoi? Parce que vous avez des collègues FEAP et FHF qui ont très très bien travaillé, un travail magnifique comme celui qui a été présenté ce matin, sur les variations assurance maladie per capita, et la hiérarchie des régions qui apparaît ici, où on voit Basse-Normandie, Franche-Comté et Auvergne au sommet de la pyramide de l'inégalité de répartition territoriale, dès lors qu'on remet la dépense remboursée, SNIRAM, consultation de psychiatrie en libéral et les consommations tout compte confondu d'hospitalisation privée en psychiatrie, la hiérarchie des régions est plus du tout la même. Mais je dirais que je vais faire un petit effet de séance. Je vais m'interdire de dire quelles sont les régions qui, du coup, reviennent dans les zones menacées. Parce que, du coup, d'abord, ça serait faire un effet de manche avec un travail que je n'ai pas porté. C'est aux collègues qui l'ont porté de le manier au sein de l'ADESM comme dans d'autres enceintes. Mais secondo, je dirais que ça serait manquer au devoir de précaution, de collégialité par rapport à l'analyse de la formation et au partage qui doit présider à ce type de débat. Parce qu'on voit bien que le consensus qui a été évoqué tout à l'heure dans certaines régions pour la modulation, il ne vaut que sur le critère de la DAF par habitant. Par contre, peut-être que le consensus disparaît si on se rend compte qu'on fait un ratio assurance maladie par habitant et qu'au lieu d'avoir une région équilibrée ou plutôt gagnante, la dite région devient sacrément perdante. Voilà, donc ça a été très bien dit tout à l'heure, hein, je reviens à votre propos, il ne faut jamais mélanger les modalités et les finalités, et ce dont on a besoin, c'est la question c'est d'avoir des finalités claires. Alors, je viens sur ma deuxième ligne, ma deuxième ligne, c'est la question de la mécanique. Moi, ce qui me gêne dans cette affaire, faut juste une zone d'humour. Vous avez aussi des régions qui commencent à prendre le stylo avec une balkanisation du raisonnement, ce que tu évoquais, Vincent, en matière de SSR. Alors qu'on nous avait dit que la T2A du SSR, la mécanique serait en place pour 2016. On nous dit ça depuis 10 ans aussi. Hein. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, une DAF, un DG d'ARS, il a la légitimité avec ses équipes de discuter avec le collègue directeur sur le bien fondé de la DAF. Elle est insuffisante ou elle est excessive par rapport aux besoins, par rapport aux coûts, par rapport à la performance, par rapport à l'organisation interne, par rapport au projet, par rapport au projet régional de santé. Bref, mais par contre, ce qui est impressionnant dans cette affaire, mes amis, c'est l'idée de la mécanicité. On a besoin de directeurs, on a besoin d'adjoints des cadres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que avoir des points de repère, on en a tous pour faire notre métier. Avoir une cuisine performante, c'est au moins du 60 repas à jour en jour. La performance d'un service achat, c'est 2-3% du volume des achats traités. Enfin, ou le nombre de patients en hospitalisation complète pour le binôme un IDE, un aide-soignant. Enfin, en tant que professionnel du secteur, on a tous ces repères. Et donc c'est très bien de se créer ces repères. Et c'est tout à fait normal que ça participe, entendez bien la nuance, à un dialogue de gestion. Par contre, là où je suis extrêmement choqué, c'est le tour de passe-passe statistique ou techniciste qui voudrait faire de la recherche de points de repère qui est parfaitement légitime, qui est tout à fait fondée, une logique de centrifugeuse mécanique à débasage, rebâchage des ressources. Quand les hypothèques... Non, avoir des points de repère, c'est normal, il faut continuer. C'est ce que tu dis, c'est ce que vous faites. Mais dire de cette affaire-là, et votre fille est muette, et ceci dit, produit de la redistribution, et on aurait besoin de mécanique, forme d'illusion de la substitution de la dite mécanique au travail d'acceptabilité politique, sociale et professionnelle, sincèrement, c'est là où je trouve qu'on a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est quelque part dans la métaphore illégitime de la tarification à l'activité. Troisième élément pour répondre à ta question. Puisqu'effectivement, j'étais dans le bureau de Cédric Gouchka avec votre collègue Roland Lubecht, Yvan Halimi, lorsque on a choisi ensemble le cycle de la DAF. Le cycle de la DAF, c'était quoi ? C'était faire ce que vous venez de présenter. C'était de dire il faut avoir un dialogue sur les ressources aussi simple que celui qu'on peut avoir sur les ressources humaines, que sur les politiques de santé. Comme je dis souvent dans mes équipes, il en va des hommes avec l'argent comme avec leur mère, sous votre contrôle de psychiatre, docteur Drevon. Ceux qui en parlent tout le temps, c'est un problème. Ceux qui en parlent jamais, c'est également étonnant. Voilà. Et donc, avoir avec la puissance publique un dialogue sur l'allocation des ressources, la création de points de repère, etc. Là où, en fait, ce qu'on pourrait dire sur pourquoi la DAF s'est trouvée en suspension et pourquoi elle a besoin de redémarrer, je vois trois idées. D'abord, la DGOS est vraiment engoncée sur la psychiatrie, vraiment gênée aux entournures. Moi, je le vois sur le droit des autorisations. On avait un texte à discuter depuis le mois de juin. La DGOS nous a promis au mois de juin, au mois de septembre, une réunion multilatérale pour discuter du texte et de ses enjeux. Il y a des enjeux qui concernent tout le monde. Et le ministère ne s'est pas senti en mesure, je ne fais pas de commentaires d'ordre personnel, sur l'idée de réunir les acteurs pour tout simplement entendre les différents points de vue. Et puis puisqu'il y a plusieurs points de vue, prendre et retenir celui qui paraît le plus pertinent. Deuxième idée. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, et pas si ancien, la DGOS a été décisive du sujet de la psychiatrie. Annie Poder a été décisive par le cabinet au profit de Jean-Yves Graal, le directeur général de la santé, de la question de la pilotage du plan psychiatrie santé mentale. Je te vois, cette question n'est pas si ancienne parce que c'était dans le filigrane d'échange avec le cabinet de la ministre encore hier, Joseph. Et quel est le sujet ? Eh bien, c'est la question des cercles concentriques. On a mélangé les termes psychiatrie santé mentale, du coup, on ne sait plus très très bien comment s'organiser. Moi, je dis, pour ma part, à mon interlocutrice du cabinet sur la question de psychiatrie avant-hier, écoutez, sur la psychiatrie, il nous faut vraiment un comité de pilotage, et pas seulement pour parler de réforme de la tarification, pour parler des objectifs d'évolution de l'offre, comme on le fait sur l'HAD, sur le SSR, sur l'insuffisance rénale chronique, terminale, sur la chirurgie ambulatoire. Enfin bref, il y a que de la psychiatrie dont on ne parle pas, de manière structurée, organisée au ministère. Ça pose quand même question. Il faut faire une campagne de déstigmatisation de la psychiatrie au ministère. Mais au-delà de ça, ce que cette affaire nous inspire, c'est la question des cercles concentriques. C'est qu'on sait tous ici que pour parler correctement de psychiatrie, il faut se préoccuper de logement. Est-ce que le logement est une compétence de la DGOS ? Non. Il faut se préoccuper évidemment de social et médico-social. Vous en faites tous, peut-être plus encore à la FEAP. Et la DGOS n'est pas la DGCS, d'accord. Il faut se préoccuper d'éducation, il faut se préoccuper de culture, bref. Donc on voit bien qu'il faut avoir un système de, en matrioshka, d'un pilotage interministériel auquel on doit être associé pour être en interaction avec les autres départements ministériels qui peuvent se préoccuper d'insertion dans la société civile, d'insertion dans la cité de patients souffrant de troubles psychiques, et puis qu'il nous faut notre propre instance plus techno sur les questions de psy et sur, entre autres, et pas seulement, l'allocation des ressources. Et puis, la DGOS a manqué de doctrine. Ayons à l'esprit que l'article de la loi de santé sur la sectorisation, l'article 12 devenu l'article 13, il a ses mérites, il a ses limites, mais il arrive après 15 ans d'hésitation stratégique du ministère, qui n'osait plus prononcer le mot secteur ou sectorisation, disant c'est fonctionnel, c'est plus vraiment géographique, donc on ne savait plus très bien comment s'y retrouver. Et dans les travaux avec la TIH, à un moment donné, on a buté tous ensemble sur est-ce qu'on peut avoir tous ensemble un fichier officiel du ministère d'une population par secteur ? C'est quand même incroyable. Ben, on a au moins comme point d'entrée sur ces sujets, et ça pose de redoutables questions sur un modèle d'allocation de ressources, d'ailleurs. On a une doctrine du ministère en train de se repréciser, et tant mieux, sur la question de la dispensation de l'organisation du service public en matière de psychiatrie et de santé mentale. Il y a aussi des questions très pragmatiques.
On va s'arrêter, David, parce que ça, c'est tout le débat qu'on a eu hier.
D'accord. Alors, moi, je pense aussi très simplement que sur la question de l'envoi en région de ce débat, je pense qu'il y a aussi, très simplement, et puisqu'on est en cercle entre nous, une position un peu de Ponce Pilate, c'est-à-dire, en fait, je ne sais pas très bien comment prendre le sujet, et donc j'envoie au charbon, ou si ce n'est au casse-pipe, les ARS et les professionnels dans une sorte de benchmark interrégional de qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui est moins, qu'est-ce qui est concevable, qu'est-ce qui est acceptable, pour que, enfin, c'est ce que j'appelle de nos voeux, on retrouve une collégialité de débat et de travail en ayant une sorte de benchmark des travaux qui auront pu être menés en région. Voilà, Vincent, ce que je voulais dire sur ton interrogation sur le pourquoi de la suspension de la DAF.
Merci. Ça va être très frustrant, mais si vous avez des questions, il faudra échanger ailleurs, à un autre moment. Pascal Mariotti a accepté de faire une brève synthèse en 5 points de ce qu'il a entendu. Et puis, pendant ce temps-là, on organise la transition avec la séquence suivante.
En fait, on passera quelques questions pendant que la bascule informatique se fera. Ce sera peut-être pas très confortable, mais c'est pour arriver à tenir le temps. Alors c'est difficile de faire une synthèse, donc ça ne sera pas vraiment une synthèse, parce que j'ai trouvé que les interventions étaient également brillantes. Elles donnent d'ailleurs aussi en elles-mêmes une idée de la complexité du sujet. Moi, je voulais revenir vers vous, et notamment vers les établissements. On a toujours tendance, parce qu'on défend aussi notre chapelle, à dire que l'exercice de managérial ou la direction d'établissement psychiatrique emporterait des facteurs particuliers de complexité. Bon, j'ai tendance à dire, à regarder notre exercice financier, que c'est sans doute pas le cas sur ce point, qu'on est quand même dans quelque chose d'extrêmement plan-plan, hein, si j'ose le terme, je le mets entre guillemets. Parce que hyper classique et assez immuable depuis des décennies. Donc la question qui se pose à nous à travers tout le débat, peut-être, c'est de savoir si on veut ou pas sortir de la zone de confort. On va laisser sortir ceux qui souhaitent sortir. Ouais. Voilà. Laisser se faire les mouvements. Voilà. Quand je dis sortir de la zone de confort, c'est pour les raisons suivantes. Premièrement, ça a été dit au début, quand on voit les taux de progression de la DAF, et la situation va sans doute s'aggraver dès l'année prochaine, nous ne sommes plus en quelque sorte à l'abri de la DAF. C'est-à-dire qu'on pouvait au moins avoir cet argument, il était sans doute pas très convaincant, parce qu'il est sans doute aussi le produit d'une vision biaisée parce qu'on la connaît, parce qu'on ne connaît pas la réalité de ce qui se passe du côté des établissements sous tarification à l'activité. C'est-à-dire, nous, on ne bouge pas parce que finalement, ça nous assure une forme de stabilité et tout va bien comme ça. Je ne reviens pas sur la question, évidemment, des inégalités, hein, mais peut-être que le prix à payer pour beaucoup, c'est cette forme d'immobilisme, mais pour moi, c'est une zone de confort. Deuxième point, me semble-t-il, qui apparaît assez fortement dans les différentes interventions, c'est qu'on est effectivement, et David Cos l'a encore souligné, avec toute la complexité qu'il y a derrière le propos, dans une contradiction assez fondamentale du ministère. Jean de Beaupuis et quelques autres hier nous disent encore « la psychiatrie, c'est une politique nationale ». Et en fait, l'immobilisme, qui est aussi celui du niveau national, est la négation même de cette affirmation-là. Alors, moi, j'ai le sentiment que la question, après, c'est quels sont les motifs de l'immobilisme. Alors, on nous parle de complexité technique, mais on voit qu'on est beaucoup plus sur un phénomène, on va être gentil, de prudence politique. Alors, moi, je veux bien qu'on évoque des préalables techniques à réaliser. On le voit bien aujourd'hui. Effectivement, il y a des préalables, il y a des questions techniques à creuser. Sauf que je vois pas comment, et c'est souvent le débat qu'on a vis-à-vis de la TIH et par rapport aux défauts de pilotage politique, comment on peut justement piloter des travaux techniques et notamment la question des coûts si on ne sait pas quelle est la finalité politique et quel est le point de sortie. Ça, c'est le deuxième aspect. Ensuite, le troisième aspect, et on a beaucoup insisté là-dessus dans nos travaux préparatoires et dans les échanges en bureau national, et c'est une autre contradiction politique, c'est qu'il ne peut pas y avoir, nous semble-t-il, de nouvelles offres de soins, celle qui est dans la loi et dans le volet santé mentale et psychiatrie, et notamment les objectifs qui seraient à atteindre en termes de correction des inégalités, d'accessibilité, de territorialité, etc., etc., tout ce qu'on a vu hier et qu'on connaît par cœur, s'il n'y a pas de nouveau système de financement. Donc là, on a une incohérence qui est à la fois politique et intellectuelle. Le quatrième point qui est apparu aussi dans nos travaux, et on le voit encore aujourd'hui à travers la description des modèles, alors je reviens pas sur la question faut-il historiciser ou non la transition, parce que ça c'est plus technique, mais c'est pas sans effet. En revanche, du point de vue du modèle, on voit comment, à ne pas traiter la question, le débat a glissé. On était au départ, me semble-t-il, sur un débat tarification à l'activité avec la question du rapport au territoire, du géopopulationnel. Et aujourd'hui, on a, me semble-t-il, reculé, preuve qu'on manque d'une cible politique, et on le voit dans nos propres débats, puisque nous sommes nous-mêmes incapables, dans les pondérations du modèle, de savoir si le modèle, il est plutôt à l'activité ou plutôt géopopulationnel. La politique, elle n'est pas posée en la matière. Alors que l'hypothèse de départ de la VAP, je n'ai pas vécu cette période-là, ne me semblait pas être tout à fait celle-là. Et aujourd'hui, on voit notamment les fédérations de patients, etc., ne plus penser que géopopulationnel, et l'activité, elle est quasiment en train, au moins partiellement, de passer à la trappe. Je trouve que c'est une forme de retournement qui fait que plus les choses durent, et moins on affirme ou on décrit l'objectif, plus on voit qu'elles vont en se dissolvant. Et ça amène un cinquième point qui a bien été évoqué, qu'on peut aborder très rapidement, c'est que, de toute façon, pour nous, dans nos établissements, et c'est pour ça que je parlais de sortir de la zone de confort, ça suppose, et vous l'avez bien entendu, accepter de se frotter à la complexité, accepter la prise de risque, ce qui est peut-être aussi, même si on ne la cherche pas par principe et par habitude, un peu notre métier et ce qu'on attend de nous, puisque l'objectif, on l'a bien compris, c'est de faire évoluer l'offre et la nature de l'offre. C'est pas uniquement une question de mesure technique. Donc, est-ce qu'on se donne les moyens de mesurer enfin finement l'activité, ce qui n'est pas le cas dans la plupart de nos établissements, pour pas dire dans tous nos établissements? Est-ce qu'on s'attaque à la mesure des coûts, puisque notre zone de confort actuelle, c'est de regarder les coûts d'extrêmement loin? Troisièmement, et ça a été évoqué par Olivier de Revon, est-ce qu'on s'intéresse à travers la question des coûts et de l'activité aux services médicaux rendus par les services de nos établissements, et on sait que tout ceci n'est nullement homogène à l'intérieur de nos établissements, etc., etc. Et je pense que la question qu'on a commencé de débattre entre nous de l'efficience, parce qu'après tout, ce n'est pas un gros mot, elle renvoie quand même d'abord au management de nos établissements. S'il s'agit de se dire que la question, ce n'est pas une question régionale, suprarégionale ou qui nous échappe, la question, elle est aussi de savoir ce que sera notre métier demain et ce qu'on entend faire dans nos établissements. Et s'y préparer aujourd'hui, c'est s'y préparer, y compris techniquement, mais il y a des choses qu'on peut sans doute anticiper dès maintenant.